TV vous présente Parole de femme, le rendez-vous des femmes avec Annabelle pour vivre sa foi au quotidien.
Bonjour et bienvenue dans l'émission Parole de femme. Nous parlons depuis le début de la semaine de la charge mentale et nous avons déjà donné plusieurs conseils, des bons conseils je crois, parce que nous avons de bons invités pour arrêter de subir cette charge mentale. Et bonjour à vous Yvan et Nathalie, vous allez bien ?
Bonjour.
Très bien. Très bien. Et aujourd'hui, on va parler de vous. On va ne faire que parler de vous. Parce qu'on va parler de la charge mentale qui est souvent, reliée ou en tout cas quelquefois augmentée, avec une responsabilité, avec la responsabilité pastorale. Et, vous êtes dans le ministère, tu l'as dit, depuis maintenant 12 ans parce que t'étais déjà pasteur. C'est ça quand vous êtes rencontrés, mariés?
Oui.
T'étais déjà pasteur.
Oui, l'église venait d'être fondée en 2004, fin 2004, donc nous on s'est mariés en 2006, donc elle a rejoint le TGV vite.
Ok, donc ouais, vous pouvez peut-être nous faire un petit historique pour nous remettre dans le contexte, ouais. comment tout ça s'est passé. Vous avez, t'avais donc déjà l'église, toi t'as rejoint l'église et ouais, tout de suite vous êtes lancés tous les deux mains dans la main. Dans
là, moi je revenais des USA effectivement, et d'ailleurs on s'est rencontrés un petit peu là. Je revenais des États-Unis, puis je savais avant de partir, avant d'aller à l'école biblique là-bas, je savais que j'implanterais une église à mon retour. Mm-hmm. J'avais pris la carte de France et j'avais regardé l'endroit où il y avait le moins d'églises par habitant. Et j'étais tombé sur le département du Val-de-Marne.
Ah oui ?
Et là où il y avait le moins, du moins, c'était au milieu, donc c'était la préfecture. C'est un département qui fait comme 1 300 000 personnes. Mm-hmm. C'est grand, même si c'est petit en taille, très condensé. Et donc c'était Créteil et c'est à 7 minutes de Paris. Donc, c'était une implantation à partir de rien. Donc, c'était fin 2004. On était une douzaine d'adultes et quelques enfants. Et puis, on a doublé tous les 2-3 ans de façon linéaire. Donc, quand tu arrivais, on devait être 50.
Même
non,
pas,
c'était 2 ans plus tard.
Donc, même pas, oui.
Ouais, 50, ouais, 60.
Et encore, oui, même pas.
Ouais. Même pas.
Ouais,
même
tout pas, à fait.
Ok, donc okay, quand même, il y a eu une croissance. T'es pas arrivé dans le plein boom. Il y a eu un petit temps d'adaptation.
C'est toujours été un boom, en fait. Ouais. Je veux dire, il n'y a pas eu de... L'église, elle a été pareille tout le temps. C'est-à-dire que l'arrivée de Nathalie, c'est... le train a été à la même vitesse tout le temps. Un peu vite.
Un peu.
Tout le temps.
Oui, c'est ça. Disons qu'au tout début, il n'y avait quand même pas beaucoup de monde. Hein. Je pense qu'on n'était même pas 50. Et du coup, il y avait un peu tout à organiser, tout à créer. Département pour les enfants... tout ce qui est, enfin à l'époque nous on faisait tout en fait, en plus on louait une salle à l'heure, donc on devait installer la salle, après on devait la nettoyer, fermer
les portes.
Parce
que ça te parle à Mathilde,
voilà,
ça
c'est ça. Aussi t'as connu
on a fait ça pendant
le vidéoprojecteur,
voilà c'est ça, ouais.
Ouais.
Et donc c'est là effectivement où bah il y avait plein de besoins en fait, et du coup bah nous on comblait tous les besoins. J'ai appris à faire de la sono alors que c'était voilà, c'est pas du tout faisais la sono,
je vois
la vidéo
bien,
il en faisait le ménage, je nous revois le dimanche soir,
il y a des dons qu'on n'a pas, il faut arrêter, hein.
C'est ça, mais voilà. Donc c'est qu'au tout début, voilà, on était vraiment voilà au moment de la naissance d'une église, hein, pratiquement quoi, il y avait quand
et la charge était forte dès le début,
voilà,
parce
du coup
moi,
bah forcément voilà.
Toi, tu étais infirmière à temps plein en cancérologie.
Donc, tout à fait.
Moi, j'étais prof à temps plein dans un lycée à une heure de... Et classe prépa à une heure de l'endroit où on était. Donc, non, c'était sérieux.
Et le fait de prendre soin des gens, de s'occuper des gens, de suivre les gens, est-ce que ça a été une grande tâche, une lourde tâche pour toi, Nathalie ?
Non, parce que déjà... comment dire, c'est quelque chose que j'aime faire et je pense que Dieu m'a mis ça à cœur aussi, hein, de prendre soin des gens. Donc c'est pour ça aussi que j'ai fait infirmière, mais du coup j'ai retrouvé ça aussi dans l'église, hein. J'ai pu exprimer quelque part voilà ce que Dieu m'avait donné là. Donc c'est vrai que là c'était une petite église au départ, donc on connaît les gens, on connaît aussi leur situation, etc. Donc c'est vrai que là c'était pas lourd pour moi de les accompagner à ce moment-là, de prendre des nouvelles des uns et des autres. Là c'était gérable, on va dire. Et puis, pareil, les gens aussi, quelque part, prenaient soin de nous. On était comme une petite famille, quoi. On était une petite famille, on passait du temps ensemble, etc. Et c'est vrai qu'au... Oui.
Ce qui n'est pas facile, c'est de passer de... En fait, c'est le syndrome d'un enfant qui est fils unique. Il a tout l'amour de ses parents, quoi. Et puis, un deuxième, un troisième, un quatrième. Et puis, quand on est le neuvième de la famille, c'est beaucoup... le papa et la maman ont toujours des journées de 24 heures. Mm-hmm. Donc, c'est plus compliqué et... Il peut y avoir des crises de dire, mais est-ce que, pourquoi papa, maman sont plus comme avant? Parce que là, c'était plus du tout une église familiale. Après, c'est devenu, là, qu'on est 1500 personnes. Si jamais il n'y a pas beaucoup, si c'est pas réparti la tâche, tout le monde fait un burn-out et c'est fini. Hein. C'était le problème de Moïse. C'était le problème de, à partir du moment où quelqu'un est responsable et qui regarde cette émission, si ça grandit, merci Seigneur, mais c'est un problème d'un point de vue comment gérer le stress, les inquiétudes liées à cette croissance et comment gérer son temps en optimisant tout pour rester accessible et humain et pas devenir une machine.
Et vous, vous avez dû apprendre à le faire parce que vous avez connu du coup des petits déboires.
Dans notre vie personnelle?
Non.
Si non, aussi, non. On va aborder tout.
Non, c'est pas ça que je voulais dire. Non, je voulais dire par rapport à l'Église, le fait d'avoir vécu cette croissance, c'est ce que vous avez dû apprendre à vous ajuster parce que c'est ça, vous pouviez plus fonctionner de la même façon parce que les besoins étaient différents et que du coup, les demandes aussi étaient différentes et que vous avez dû faire des choix dans le cadre du ministère pastoral, mais si tu veux parler de ta vie personnelle.
Mais les deux sont liés parce qu'on est tellement la tête dedans que ça rejaillit aussi sur le personnel.
Oui, surtout qu'on était jeunes mariés aussi, donc du coup, nous, on a appris à mettre des limites.
On apprend encore.
Oui, on apprend encore, mais à répartir notre temps, nos priorités. Il fallait aussi qu'on prenne soin de nous deux. On a appris comme ça à s'ajuster au fur et à mesure, selon les besoins, les attentes, etc. Au fur et à mesure.
Les attentes, je pense que c'est un mot très, très lourd qui nous met une charge mentale quand on est responsable d'une église ou d'un grand ministère. Et je pense qu'il faut apprendre à se détacher aussi pour... moi, j'ai appris à me détacher des attentes des gens pour m'enlever justement cette charge parce que je me suis dit, autant qu'il y a de gens dans notre église ou qui sont sous notre responsabilité, autant il y a d'attentes, autant il y a de filières. Chaque personne, les attentes d'une personne correspond à une fiche ou une filière ou...
Dossier.
Un dossier. Moi, c'est... Merci, Annabelle. Et donc, c'est ça, chaque personne a ses attentes personnelles bien respectives. Donc, ça nous met une charge, mais c'est incroyable. Les gens s'attendent de nous des choses souvent qui sont absolument... c'est extraordinairement ridicule. J'allais pas bien cette semaine, pasteur. Vous m'avez pas appelé. Des trucs comme ça.
Et pourquoi t'as pas appelé?
Et pourquoi vous
pourquoi
avez pas appelé?
Pourquoi t'as pas appelé, Mathilde?
Parce que vous ne l'avez pas dit, que vous n'alliez pas bien.
Oui, c'est
les gens, des fois, ils ont des attentes un peu spéciales. Donc, je pense vraiment il faut s'en remettre vraiment constamment. Mm-hmm. On en parle cette semaine. S'en remettre à Dieu et remettre dans une perspective, vraiment se détacher il faut apprendre à se détacher un peu des attentes des gens, justement, s'enlever la charge mentale. Mm-hmm. Entre autres.
L'idée de plaire à tout le monde est naturelle. Après, l'idée d'être le sauveur de tout le monde, alors là, pour le coup, c'est une impasse. Quoi. Si on commence à se substituer à Jésus, qui est le sauveur du monde, et si les gens finissent par croire qu'on est un intermédiaire, c'est dangereux. Alors ça a beaucoup à voir aussi avec la vision à l'origine du prêtre catholique qui, quelque part... Le responsable, l'intermédiaire, il a un rôle très complet. D'ailleurs, il n'est pas marié.
Parce qu'il lui faut...
Il n'est pas marié parce qu'il est censé être amoureux de l'Église et donc voilà, de chacun. Et là, nous, on a dans... À partir du moment où... Et je suis très content que l'apôtre Paul ait permis qu'on soit marié. Il dit à Timothée, d'ailleurs, que c'est quelque chose de très bien. Mais on le voit aujourd'hui avec tous les scandales qui arrivent, combien c'est important d'être équilibré aussi là-dessus. Mais... En tant que pasteur, quand on est marié, c'est vrai que la famille doit être protégée. La Bible dit que celui qui aspire à la tâche de responsable ou d'évêque, qu'il prenne bien soin de sa famille, qu'il soit un bon mari déjà. Ça veut dire qu'elle passe avant la famille. C'est compliqué. On est d'une génération, et puis ceux avant nous encore plus, qui mettaient vraiment la famille, elle était sacrifiée sur l'autel de l'Église. Donc on a dû désapprendre avec toute cette culpabilité de dire, mais est-ce que je suis assez consacré? Si jamais j'ai le droit de prendre un week-end en amoureux avec ma femme, est-ce que c'est possible ou pas? Et puis on a vécu où des choses très dures, parce que la vie d'une église et puis la vie de tout être humain sur la terre, c'est passé par des moments très compliqués. On est passé par des moments très compliqués.
Oui, tout à fait. À un moment, c'est vrai que dans notre vie personnelle, il se trouve que donc j'ai vécu des fausses couches, donc à plusieurs reprises, et donc à ce moment-là, enfin, je n'en avais parlé à personne parce que c'était quelque chose de très intime. Voilà, c'est un deuil très particulier aussi. Hein, la fausse couche. Et du coup, j'en avais pas parlé, mais en parallèle à l'église. Je pense notamment à une famille qui vivait un deuil aussi, mais dans le cadre d'un accident, hein, de la route. Et du coup, on les a accompagnés, cette famille, tout ça. Et en fait, et c'est en même temps que nous, on vivait ça, quoi. Mm-hmm. C'est-à-dire, dans la même journée, j'apprenais que le cœur de notre bébé s'était arrêté. Et en même temps, on devait être là, présent. Moi, j'ai fait l'enterrement, être à l'enterrement, etc. Donc des fois, c'est vrai qu'on a une vie un peu, on a des vies parallèles. C'est assez étrange. Donc quand on sait que on est à la bonne place, tout va bien, mais après c'est vrai que c'est quand les gens après des fois vont nous reprocher de pas avoir fait assez à ce moment-là, ce qui a été le cas notamment dans cette situation-là, c'est un peu des fois ça peut être difficile à encaisser aussi. Ouais. Donc après moi après je suis pas quelqu'un qui suis allée leur dire oui mais nous on vivait ça à ce moment-là, non on l'a pas fait et puis
ils auraient pu comprendre peut-être.
Ils auraient pu comprendre, mais c'est pour ça que des fois faut toujours se dire que même le couple pastoral peut vivre des choses aussi personnelles, et des fois c'est bien aussi de comprendre que de peut-être pas avoir trop d'attentes, projeter trop d'attentes sur par exemple le coup pastoral, parce que c'est quand même Jésus qui est censé être notre celui qui va nous soutenir, ouais, notre ami. Donc c'est vrai que nous on essaye aussi au maximum dans notre façon d'aimer et d'aider les gens, de toujours les amener à connecter avec Dieu, mm-hmm, à avoir une relation vraiment mature avec Dieu, parce que qu'ils ne soient pas dépendants de nous ou de, parce qu'on est humain aussi, et puis nous aussi on a nos fragilités, nos deuils, les choses qu'on vit, quoi.
Mais c'est quelquefois vraiment une grande surprise pour l'assemblée de découvrir mais mes pasteurs vivent des choses, ont des combats, des défis personnels, parce que c'est des personnalités qui sont publiques dans la mesure où on les voit le dimanche, et puis on a l'impression de tout connaître d'eux, de tout savoir d'eux, que tout ce qu'ils vivent, c'est ce que on perçoit d'eux le dimanche ou aux diverses réunions. Mmh. Et après, je dis pas d'aller s'insinuer dans la vie privée des pasteurs, hein, c'est pas du tout ça, mais c'est juste de comprendre, ils ont une vie privée, ils ont leurs défis, il y a des choses qui se passe dans la vie, et c'est vrai que de tout de suite aller faire énormément de reproches, t'es pas assez là pour moi, c'est de comprendre le poids de nos paroles en fait à chaque fois. Et vous avez l'air d'avoir assez bien réagi, mais il y a des personnes qui craquent en fait et puis qui abandonnent le ministère, et c'est une grande perte pour le royaume, parce que c'était des gens qui portaient quelque chose de particulier pour aider des gens, pour aider cette église, mais parce que les attentes étaient trop lourdes, parce que il y a peut-être eu des incompréhensions, un problème de communication. Les personnes abandonnent, et finalement c'est une perte pour tout le monde à ce moment-là. Mais comme je l'ai dit, vous avez l'air de, ça a l'air de
bien. Il faut accepter aussi l'idée qu'une personne ne peut pas apporter la totalité. Mm-hmm. Je crois que c'est pour ça que Dieu a donné à l'Église des ministères très différenciés. Et on doit aussi repenser peut-être l'organisation de beaucoup d'églises qui sont beaucoup trop pyramidales, et où quelqu'un porte tellement tout, alors qu'il y a vraiment des apôtres, des docteurs, des prophètes. À l'un est donné le don de bienfaisance, à l'autre le don de diriger, etc. On essaye, nous, on ne dit pas qu'on arrive, mais de faire que toute la charge du ministère soit répartie au maximum avec les dons de chacun. Moi, je suis très heureux de ne pas porter, par exemple, je vais donner un point de vue. En tant que pasteur, je prie, bien sûr, et j'aime que les gens soient guéris si je prie. Mais je n'ai pas reçu de Dieu un don de guérison aujourd'hui. Je crois que Dieu peut répondre à ma prière, j'ai été guéri, j'ai vu des personnes qui ont été guéries, mais honnêtement...
Tu as des personnes qui sont plus utilisées que toi.
Ah là, on a dans l'église MLK un certain Nicolas Panza, qui est mon ami pasteur, mais lui, pour le coup, il a un don de guérison, et il est très sensible aux aspects prophétiques, c'est son appel. Et depuis qu'il est là, moi j'ai une charge mentale en moins, de me dire... Oh là là, il faut que tu sois meilleur au niveau de la prière de foi et de guérison. J'ai dit, merci Seigneur, t'as envoyé Nico. Objectivement, maintenant je culpabilise. Alors, c'est pas très évangéliste ce que je vais dire, mais si jamais on est deux personnes à prier au moment de l'appel, j'ai pas envie de lui dire, Nico, vas-y tout seul, parce que ceux qui vont être dans ma ligne, ils sont pas bénis. Je manque moi-même de foi vis-à-vis de moi-même. J'ai dit, Ok, Seigneur.
On a posé main ensemble.
Je vais mettre Nico en avant. Je vais mettre Nico en avant. Et c'est surtout le Seigneur qui guérit. Mais il s'avère que Nico a un don que j'ai pas. Voilà.
Mais non, mais regarde, prends mon conseil. Tu te mets avec lui. Vous avez posé les mains ensemble.
Je me mets derrière. Moi, je suis à Aron et Ur et je mets Nico sur la montagne.
T'es pas Apollos.
Voilà, mais c'est ça qui est bien. C'est-à-dire, on peut être en charge, mais soyons pas en charge de tout. Faisons bien ce que Dieu nous a demandé. Et sinon, beaucoup de mes collègues, ils meurent d'épuisement de la totalité des ministères. C'est plus des pasteurs, c'est des chefs d'orchestre, mais c'est également des bâtisseurs, c'est également des super gestionnaires. Et puis, à un moment, ils sont pas bons dans un domaine, et bien sûr, c'est le domaine qui va par lequel le scandale va arriver. Donc, on va pas les rater sur ce qui va, sur ce qui va pas. Ils ont dit, mais comment ça, un pasteur qui est nul pour faire les visites, c'est pas possible. Oui, mais il était bien sur les autres aspects, mais on va retenir ce qui va pas.
Là où je pense où des fois les gens dans le ministère font faux bond, c'est quand ils pensent que tout justement repose sur eux, et c'est là où il y a le burn-out. Et historiquement parlant, quand j'ai côtoyé des gens dans le ministère qui sont tombés en dépression ou qui ont fait un burn-out, c'est vraiment ils se sont concentrés sur la charge à faire et ils ont vraiment délaissé le temps dans la présence de Dieu. Et vraiment, c'est ça, ces gens-là, ils ont vraiment performé. Est-ce que je porte du fruit ou est-ce que je suis occupée? En fait, c'est un peu ça la question. Ouais. Et en fait, les gens étaient énormément occupés. Et parce qu'on est dans le ministère, souvent on se dit, j'ai pas besoin. Si je travaille à l'église, c'est comme si je suis avec Dieu. Mais en fait, ce sont deux choses distinctes. Exact. Et vraiment, ça demande vraiment une très grande maturité, je pense, pour l'homme, la femme de Dieu, qui exerce le ministère, de vraiment se poser à chaque jour et de ne jamais penser qu'on est au-dessus de tout le monde. Justement, on a besoin de dépendre de Dieu à un niveau absolument extrême. Et vraiment, notre vie dépend de notre dépendance sur Dieu. Et je pense que c'est là où on va vraiment s'éviter justement des burn-out, parce que on comprend que tout repose pas sur nous, on se décharge et à chaque jour on remet les défis avec lesquels on fait face, les défis qui nous sont posés à chaque jour, parce que en fait le ministère c'est une boîte à surprises. À chaque jour il y a quelque chose de différent, on sait jamais qu'est-ce qui va arriver, qu'est-ce qu'on va avoir à gérer. Et je pense vraiment faut toujours être prêt et vraiment justement aller dans la présence de Dieu pour développer, avoir une maturité qui grandit constamment, justement, pour pouvoir gérer.
Et contrairement à ce qu'on peut penser, la disponibilité d'un pasteur, ça ne fait pas de lui un bon pasteur. Au contraire, on doit se poser la question, si on est toujours disponible pour les gens, est-ce que je suis disponible pour des temps de qualité dans la présence de Dieu? Et je pensais à Jésus. Jésus partait, il allait prier. On ne savait pas où il était. Les disciples cherchaient. Ça veut dire, on doit nous chercher quelque part. Et on ne peut pas être toujours là avec tout le monde entouré, parce qu'il y a des moments, il faut vraiment qu'on aille dans la présence de Dieu, dans le lieu secret, qu'on ait des temps de ressourcement, des temps où on va se décharger, des temps aussi où le Seigneur va nous communiquer des solutions. Justement, ces solutions, ces problèmes complexes, on n'en voit pas le bout. Soit ce jour-là, quand on prie, on n'en voit toujours pas le bout, mais on ressort, on a la paix, on a la joie pour pouvoir le supporter sans avoir eu la manifestation de cette solution, ou on reçoit aussi la solution. Mais moi, quand j'ai vu, Jésus, on le cherchait. Il était parti prier, les disciples, mais il est où? Ils ont dû aller le chercher. Je me dis, venez me chercher. Venez me chercher si vous avez besoin de moi, mais il faut que faut qu'on puisse avoir cette maturité, cette discipline et cette liberté de se dire j'ai le droit de pas être disponible pour les gens.
Moi je pense à parce que le ministère, il y a tellement de facettes, c'est quel que soit ce que Dieu t'a confié en fait, c'est ça le ministère, c'est la mission que Dieu t'a confiée. Et je pense que notamment j'ai cette image dans la tête, s'il y a une maman qui est célibataire et qui doit gérer une famille, elle a un peu c'est un ministère de prendre soin des enfants. En plus, s'il y en a un qui a un petit handicap ou quelque chose, elle va essayer de se donner à 100%, des fois à 1000%, et elle a le droit aussi d'avoir des moments de seul à seul, elle avec Dieu, comme tu viens de dire, des moments de qualité. C'est vrai pour le pasteur, mais c'est vrai aussi pour la maman, c'est vrai pour l'homme, c'est vrai pour... On a tous besoin, à un moment, par rapport à la mission que Dieu nous a confiée, de dire, j'ai le droit de ne pas culpabiliser à prendre un temps où je ne suis plus accessible. Parce que on connaît tellement de mamans où l'enfant il peut téléphoner 24 24 7 7 etc. Non. Oui, mais je suis une maman, je dois. Non. C'est bien aussi que c'est aussi mettre des règles en disant voilà, là c'est l'heure où maman il a besoin d'un temps pour elle. C'est là où papa il a besoin d'un temps pour lui et il t'aime autant. Mm-hmm. Il t'aime absolument et il sera encore un meilleur papa, il sera encore une meilleure maman après en faisant ça.
Tout à fait. Et attends, oh, j'ai perdu ma pensée.
Pardon.
T'as une autre pensée, Nathalie?
Non, je voulais dire par rapport à ces temps de ressourcement, je trouve que c'est des temps aussi où on se concentre et on se reconcentre sur pourquoi on fait les choses. Mm. Et c'est vrai que quand on a des ministères, quels qu'ils soient, on peut rapidement aussi confondre notre relation avec Dieu avec ce qu'on fait, quoi. Parce qu'on est dans l'église, on est actif, on aide les gens, on est là et tout. Et c'est vrai que ça a été aussi des fois, nous, notre tentation, parce qu'on est quand même tous les deux des hyperactifs. Donc, voilà, que ça se fasse.
Ça va être sympa chez vous.
On s'ennuie pas, on s'ennuie jamais, mais on sait pas s'ennuyer. Et du coup, c'est vrai que le risque, pour des gens notamment comme nous, finalement, c'est un peu de confondre les deux aussi, de dire, bah, de toute façon, on a fait trois réunions de prière, on a fait ci, ça, et du coup, bon. Et quelque part, et à la fois, on peut pas faire l'économie de ce temps où on va simplement juste prendre du recul, se poser devant Dieu et aussi, bah, se rappeler aussi pourquoi on fait les choses et de se recentrer aussi sur, bah, peut-être que là, j'en ai fait trop et, ou peut-être que là, je prends trop de temps à faire ça alors que je néglige trop le temps de prière. Donc, c'est des temps aussi pour, voilà, se poser et se recentrer vraiment sur pourquoi on fait les choses. Parce qu'il y a un risque aussi, et c'est mon père qui me dit toujours ça, le service c'est bien, mais il faut pas le faire avec un zèle amer. Mm-hmm. Parce que des fois aussi, justement, on est actif, on fait plein de choses, et puis, des fois, on est fatigué, ou les gens
nous font. Parole de femme?
Éventuellement. et moi, ça m'est arrivé. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je me rappelle de cette phrase-là. Il ne faut pas le faire avec un zèle amer. Et c'est vrai que rapidement, on peut tomber aussi dans... On fait les choses, mais la joie n'est plus là. La joie n'est plus là, on ne sait plus pourquoi. Enfin, on a un peu perdu de vue pourquoi on le fait. Et c'est temps, comme tu dis, prendre ce temps de ressourcement auprès de Dieu. Et ben, du coup, on regarde les choses dans vraiment une perspective biblique et on se dit, mais pourquoi on le fait? C'est par amour pour les gens, c'est parce que Dieu, voilà, Dieu aime les gens et il veut que ces personnes connectent avec lui, etc. Et du coup, bah, ça fait du bien et on repart et cette fois avec des motivations renouvelées aussi, quoi. Mmh. On est plus dans l'hyperactivité ou l'activisme et voilà, donc vraiment c'est temps. Si toutes les personnes là qui nous écoutent et qui sont vraiment très impliquées, hyperactives, vraiment ne négligez pas ces temps-là parce que vous en avez besoin, parce que sur la durée sinon vous pouvez pas tenir, quoi. Parce que rapidement on fait les choses et puis même on perd de vue pourquoi on les fait, quoi.
Mmh. Ouais, non, c'est ça.
Donc, ça c'est très important.
À... à être en mode robot, je sais, c'est, et tout. C'est sûr que on perd l'essence même de notre relation, quoi, avec Dieu. Et on a parlé vite fait de Moïse tout à l'heure, mais Jethro lui a dit, bah allège la charge. Mmh. Et c'est sûr que, comme on l'a dit, bah le fait d'avoir des pensées, des émotions, c'est normal. Mais la clé, c'est vraiment de s'alléger et d'accepter de s'alléger, allège. Et qu'il l'apporte avec toi. Et Jethro a vraiment donné des super conseils du coup à Moïse. Et un des conseils qu'il lui a donné, c'est le point que tu as touché tout à l'heure, c'est vous amenez dans votre ministère les gens à développer une relation mature avec Dieu. Et j'imagine juste Moïse, du matin au soir, il devait répéter tellement souvent la même chose. Ouais. Tu sais, voilà ce que Didi, voilà ce que... Et là, bon, une bonne fois pour toutes, Jethro lui dit, tu les enseignes, comme ça ils vont le mettre même en pratique. Et en gros, bah, si on permet aussi aux gens d'être enseignés puis d'être autonomes entre guillemets dans leur relation avec Dieu, on va aussi gagner du temps parce qu'on va leur permettre de développer leur propre relation avec Dieu. Mm-hmm.
Tout à fait. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est fort chez nous, enfin, dans notre ADN d'église, on va dire. C'est vraiment donner des clés, des outils aux gens, enfin, les amener vraiment à être dépendants de Dieu, à avoir une vraie relation avec Dieu, indépendamment même de l'église, quelque part, enfin, qu'ils puissent vraiment, approfondir la Bible, vraiment méditer la parole, etc., avoir des vrais temps de prière, etc., pour que ces gens-là, oui, soient, voilà, dès qu'il y a une épreuve ou quelque chose, qu'ils puissent tout de suite, bah, se raccrocher à Dieu, quoi, et tenir, quoi. Nous, c'est vraiment, hein, c'est...
On a appris de nos erreurs, de nos bêtises.
Oui, aussi.
Moi, je sais qu'au début, j'ai pas été un aussi bon mari que j'aurais dû, parce que pour moi, j'ai été quelque part, j'avais l'épouse de Christ aussi, quoi. Mm-hmm. Et j'en faisais deux. et j'arrivais pas à gérer. Et je me rappelle quand j'étais allé au Colorado avec mon grand ami Pasteur Eric, je lui dis, mais tu vois, ma femme, là, elle, ben justement, j'avoue, hein, j'ai un peu dit, j'ai l'impression qu'elle a un zèle amer, quoi. Et il dit, donc, est-ce que tu peux me fixer le problème, là, la corriger tu vois, elle manque de consécration, moi, je mords dedans, et elle est en train de perdre, là, le zèle.
Alors là, je suis sûre qu'Eric, il t'a pas dit, ouais, alors, non,
il m'a
dit, comprends.
Non, alors, il a laissé passer, il m'a bien écouté, déjà, parce qu'il est très intelligent, il m'a laissé parler. Puis à la fin, il m'a dit, Yvan, j'ai trouvé le problème.
Et il m'a écouté. Oh,
je lui ai dit, waouh, t'as trouvé le problème. C'était quoi son problème? Elle dit, son problème, c'est toi. Comment ça, c'est moi?
Ça, c'est fait.
Bah oui. Je pense qu'il va falloir remettre les priorités dans l'ordre. Mm. Et ta relation avec Dieu en un. Ensuite, ta relation avec ta femme. Et en troisième, l'église. Parce que tu ne peux pas prendre soin de l'église si tu ne prends pas soin de ta femme. Wow. Et c'est vrai que je l'avais lu hein, dans Timothée, mais après, le vivre et de l'entendre, ça fait un peu plus mal. Après, du coup, on a pris des stratégies dans l'église qui étaient un peu très concrètes. Là, je voudrais juste en aborder. On peut tellement tomber dans l'activisme, on s'est limité à, notamment, quand quelqu'un sert, puisque nous, on a 5 cultes.
Ouais.
Donc 9h, 11h, 13h, 15h, 17h, donc ça fait des journées folles, importantes. Donc, un équipier qui est bénévole comme ça ne donne qu'un dimanche par mois. Parce qu'il faut qu'il ait au moins 3 pour sa femme et ses enfants qui sont sa priorité. Mmh. Parce que sinon, on aurait basculé. Il y a des personnes, c'est nos limites, elles sont extraordinairement consacrées, et si on ne leur dit pas non... Donc, à MLK, il faut une dérogation pour avoir le droit de faire un deuxième dimanche.
Wow.
Ça doit se justifier. Le service de Dieu est important, mais je ne veux pas assumer au ciel un petit garçon qui viendrait en me disant « C'était super, mais t'as volé ma maman. Mm-hmm. » Et ça, c'est pas possible. On doit garder notre état d'esprit, la communion avec Dieu en un, l'équilibre de la famille et l'Église. C'est là où on resplendit parce qu'on sert les autres de tout ce qu'on a reçu et on le donne. Et ça, c'est merveilleux. Alors après, je ne dis pas que je réussis tous les jours, mais je travaille. Je suis sous contrôle d'huissier. j'ai le bracelet électronique.
Moi, j'ai le contact d'Eric. Donc, écoute, je vais lui dire que tu as fait une confession franche et honnête. Et on se retrouvera demain pour une prochaine émission de Parole de Femme. Et nous parlerons de lâcher prise. Comment lâcher prise? Parce que quelquefois, c'est là que le bât blesse. Mais demain, nous verrons avec Yvan et Nathalie comment nous pouvons déléguer avec succès et alléger la charge et partager cette charge afin de pouvoir être aidé.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des nombreux auditeurs de MCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Paroles de Femmes sur emcitv.com.